C'est une femme allant sans peur, forte et toujours pleine d'ardeur, pleine d'un courage idéal, où elle n'a pas peur d'avoir mal. Et tout ce qu'elle m'a donné, qu'elle juge comme bon à jeter, à son ventre qui m'a porté, je me suis à jamais soudée. C'est une femme alors sans peur, solide, plus forte qu'un vainqueur, pleine de confiance vitale, qu'elle juge tout à fait banale. Et tout ce qu'elle a combattu, lutté pour qu'un jour soit venu, sortant mon futur du sommeil, c'est mon passé qui la rappelle. Sans peur, brûlée par un feu intérieur, pleine d'une obsession brutale, qu'elle juge comme tout à fait normale. Mon corps à son corps confondu, mes yeux d'enfant l'ont toujours vu, telle une reine, moi son vassal, mon imago. Qu'on la croirait sans cœur, une prêtresse sans bien ni mal, gardienne des clés de mes vestales. Elle est tout ce que j'aime aujourd'hui et tout ce que je crie aussi. Les liens d'une tresse ombilicale, parfois si chaude, parfois glaciale. Un mauvais germe, une mauvaise graine, serait-ce le vieux croque-mitaine? Il est ce père imaginaire, présent dans un autre univers, cible des soucis de l'enfance, qui deviennent fugues d'adolescence. Me faudra-t-il jusqu'à ma mort être ton droit, vivre ses torts, sombrer dans l'ombre de vos silences, me taire jusqu'à ce que votre absence vous mène dans les jardins suprêmes, régler vos proies et vos dilemmes, et sous les yeux d'un autre père, vous mettre fin à votre guerre. We'll be right back. salut. Ton amour si tenace, toute seule devant ta glace, avec ton guitare.
Lucide Beausonge dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Nous, nous repartons dans les îles des mers du Sud et nous cherchons à sonder cette fois-ci très concrètement l'envers du décor, n'est-ce pas Béatrice, l'envers du paradis, puisque cette fois-ci, alors avec toi, nous allons rentrer concrètement dans ta recherche sur justement la place que tiennent les femmes dans la société micronésienne de Tchouk. Est-ce qu'il faut préciser Tchouk, ça risque d'être très différent du reste de la Micronésie?
Ouais, c'est assez différent. Disons que au niveau des structures sociales, ouais, ça change pas mal. Ouais. Mmh.
Alors, au point de départ, comment tu as essayé d'aborder la question? Est-ce que tu t'es dit, je regarde les femmes telles qu'elles vivent, j'essaye de comprendre comment petit à petit tu as lancé ta recherche concrètement sur le terrain?
Ouais. Bon, disons que d'abord, il faut arriver et s'installer, tout ça, que ça prend déjà pas mal du temps. Et voilà, disons, ce que je voulais avoir, surtout d'abord, c'était une vision un peu générale. Parce que je pense que la question, elle vient toujours après. Disons qu'il y a un regard avec un certain intérêt, mais la question, elle vient toujours après. Alors bon, c'est ça que j'ai fait, disons que je me suis laissée un peu imprégner des choses pour après pouvoir formuler les questions.
Et alors, qu'est-ce qui était apparu comme étant le rôle des femmes? Apparemment, ce que tu disais, il y a des choses qu'on ne comprend pas vraiment pas au premier regard. Mm-hmm. Hein, il y a l'image que les femmes donnent quand elles sont dans la rue, dans la plage, etc. Et puis, ce que ça signifie peut-être au deuxième degré. Alors, d'abord, peut-être les activités, les travaux. Les femmes travaillent beaucoup, comme souvent dans beaucoup de sociétés des pays du Sud. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu les voyais faire et qu'est-ce qui t'a frappé?
Ouais, disons que oui, que les femmes, elles travaillent. Bon, il faut dire qu'à Tchouk, il n'y a personne qui travaille beaucoup. Par rapport à ça, ils sont assez intelligents. Il faut faire le moins possible. Puis, bon, c'est vrai que des fois, ça leur apporte des problèmes. Par exemple, au niveau d'alimentation, c'est une des choses, c'est ça, justement, qu'ils ont trouvé. Par exemple, le riz, c'est beaucoup plus facile à faire que d'autres choses. Et puis voilà. Mais bon, disons qu'en général, je trouve une attitude assez intelligente. Mais bon, disons que par rapport au travail, c'est. Bon, je ne veux pas dire que c'est les femmes qui font tout le travail, mais c'est plutôt les femmes qui font les travaux les plus. Des travaux qui demandent des responsabilités de tous les jours, justement. Parce que, bon, des hommes, par exemple, ils vont peut-être pêcher ou faire des choses. Mais c'est des choses qu'ils font s'ils veulent. Et disons que si elles ne veulent vraiment pas, ils peuvent rester à la maison et puis bon, ce n'est pas grave. Mais les travaux qui sont les femmes, c'est normalement des choses qui demandent de responsabilité et puis justement d'être là tout le temps. Puis bon, à niveau justement d'être avec les enfants, de faire à manger, de faire la lessive, de faire la vaisselle et des choses comme ça.
Et puis, alors, toi, tu avais décidé d'essayer de comprendre quel était le rôle de la sexualité dans leur vie, mais il y a des choses qui te sont quand même apparues dans le fonctionnement en général de la société. Mm-hmm. Tu nous parlais tout à l'heure de la soi-disant démocratisation que les Américains ont imposée, ça voulait dire quoi? Avant, il y avait quoi?
Bon,
et quelle place tenaient les femmes dans cette structure-là? Comment fonctionne? Quels sont les rapports hommes-femmes dans une société comme la Micronésie et à Tchouk en particulier?
Bon, disons que avant, c'était. Bon, c'est toujours, disons, une société clanique où il y a des clans qui sont très grands. Puis normalement, bon, les clans sont divisés dans des unités plus petites. Puis que normalement, c'est ce qu'on appelle la. Je ne sais pas comment dire en français, la famille étendue.
Famille élargie,
oui. Famille élargie. Et bon, où il y a normalement, je ne sais pas, 40 personnes, entre 20 et 40 personnes. Et bon, disons qu'il n'y avait pas une hiérarchie politique dehors de ces familles. Mais par contre, ces familles-là, ils sont très hiérarchisées. Disons que c'est normalement à travers un critère de âge et puis de sexe. Et alors, disons que. Si tu es plus jeune, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est plus âgé que toi n'importe quoi. Il faut toujours obéir aux gens qui sont plus âgés que toi. Puis encore, il y a le critère du sexe, comme quoi la femme doit obéir aussi à ce que disent les hommes. Mais ça, c'est là, il y a beaucoup de nuances, par contre.
Alors, tu peux nous donner des exemples ici. À quoi tu t'es rendu compte de ces nuances, très concrètement?
Alors, par exemple, disons que les femmes, elles s'occupent toujours d'une place qui doit être pas publique. même si en anthropologie, on n'aime pas trop cette division entre public et privé. Mais disons que les femmes, elles ne peuvent pas être, prendre une place publiquement, ou par exemple parler en public, ou prendre des décisions et puis de faire ces décisions publiques. Elles jouent un rôle qui est toujours un peu derrière les scènes. Et disons que la partie publique, c'est surtout disons que c'est masculine par définition, c'est que pour les hommes. Mais ça ne voulait pas dire que les femmes n'avaient pas des choses à dire, justement. Parce que ce qu'on pense, c'est que les femmes, c'est comme les gardiennes, justement, de l'unité de la famille, chose qui est très importante, surtout dans une société où il n'y a pas tellement une idée très développée de l'individu. Disons qu'un individu n'est rien si cette personne n'a pas une famille. Alors, disons que l'identité vient donner à l'individu à travers de sa famille. Et puis voilà, une chose qui est évidemment très importante. Et puis la gardienne de cette unité, justement, de la famille, c'est toujours les femmes. Alors, disons que, moi, l'idée que je me suis fait là, c'est que les femmes laissaient faire les hommes jusqu'au moment où c'était très grave. Alors c'est là, jusqu'au moment où elle voyait que l'unité de la famille était menacée.
Quoi par exemple ?
Par exemple, en cas de guerre entre deux clans. Alors par exemple, les gens à Tchouk disent qu'avant, si par exemple il y avait la guerre déclarée entre deux clans, ça suffisait qu'une femme apparaisse en milieu de la bataille pour que tout s'arrête. Puis il fallait qu'elle dise rien, juste être là. Alors ça voulait tout dire, ça voulait que ça suffit. Qu'il faut faire la paix et puis qu'il faut se rendre à l'ordre. Mais disons que c'est justement la dernière parole, mais quand les choses sont graves. Ou par exemple, par rapport à la terre, justement, qui est aussi. Disons que la famille, ça ne comprend pas seulement les individus, mais ça comprend aussi la terre. C'est une espèce d'unité. Et puis aussi les morts. Disons que c'est trois éléments qui sont essentiels à la famille. Alors justement, c'est les femmes qui sont gardiennes de cette unité. Par exemple, les terres, c'est très important, pas seulement parce que, disons, on mange de la terre, mais aussi parce que les morts sont enterrés dans la terre. Et puis, c'est les ancêtres. Et puis, disons que ça garde toujours cette unité.
Mais est-ce que, par exemple, les femmes sont propriétaires d'un bout de terre ?
On ne peut pas tellement parler des propriétés. Disons que c'est les familles qui sont comme une espèce de coopératif. Alors, c'est, disons que les femmes sont les responsables de que, disons que l'héritage de ces terres soit fait selon la tradition. Justement, qu'il n'y aille pas ailleurs. Mmh. Et puis, ça passe justement, ça va être les femmes qui sont les responsables de ces terres. Et après, ça va être les filles qui vont être responsables de ces terres. Puis, elles vont aussi procurer justement d'entretenir et puis de que cette unité ne soit pas cachée. Justement. Alors c'est là justement aussi encore que les femmes ont beaucoup de choses à dire. Disons que, par exemple, il y a maintenant beaucoup de cas où il y a des hommes qui veulent vendre des morceaux de terre. Alors c'est toujours les femmes qui empêchent justement de que la terre soit divisée. Et encore là, par exemple, dans des cas comme ça, des ventes de terre ou des pertes de terre, les femmes disent qu'elles sont la dernière parole. Mais là, il faut aussi comprendre la valeur de la terre. Ce n'est pas seulement une valeur économique parce qu'on mange de la terre, mais c'est une valeur symbolique très, très forte.
Mmh. Et alors, quel changement a amené le fonctionnement démocratique ? Mmh. Parce que tu avais l'air de dire que ça avait changé pas mal le fonctionnement de la société.
Oui, justement. Alors, disons que dans la société traditionnelle, les femmes, elles ne pouvaient pas, disons, faire partie du public, mais quand même, elles avaient un accès silencieux, mais quand même, elles avaient un accès aux décisions. Le problème, c'est que, justement, maintenant, le pouvoir démocratique, le pouvoir, disons, le gouvernement moderne, c'est une chose publique par excellence. Disons, on ne peut pas participer là, disons, depuis le silence, on ne peut pas participer là. Alors, les femmes, elles sont absolument exclues, justement, de ces nouveaux systèmes de gouvernement. Parce que là, il n'y a pas la place vraiment pour pouvoir justement prendre des décisions depuis le silence. C'est ça. Et avant, elle le faisait, c'est-à-dire c'était dans le silence, mais ça avait quand même le droit et puis l'obligation aussi de prendre des décisions. Mais là, elles sont absolument exclues.
Et alors, ça bouleverse fortement les structures des familles, c'est-à-dire qu'on... l'absence d'influence des femmes dans la partie publique donne tout à coup beaucoup de pouvoir aux hommes, y compris dans, dans la vie familiale, dans le clan.
Oui, justement.
Et bouleverse les donnes.
Le problème, bon, disons qu'il y a deux choses. Il y a la démocratie et puis il y a aussi le christianisme qui donne aussi, par exemple, un rôle très important au père, chose qu'il n'y avait pas avant, parce que là, c'était plutôt le frère qui avait, disons, le rôle que pour nous, c'est le rôle du père. Alors bon, entre, disons, le christianisme puis la démocratie, disons que toutes les choses, toutes les apparences, justement, qu'il y avait de la culture traditionnelle, comme quoi les femmes devaient être soumises à l'homme, elles prennent maintenant un autre sens. Justement, parce qu'avant, disons que l'apparence, par exemple, les femmes, elles doivent marcher aux genoux devant leurs frères. Alors ça, c'était une apparence de soumission. Et puis bon, c'est en même temps une vraie soumission. Mais ça ne voulait pas dire qu'elles n'avaient pas du pouvoir. Alors maintenant, il y a un mélange, justement, de choses, d'images extérieures. Par exemple, le fait que les femmes doivent marcher à genoux devant leurs frères.
Ça, aussi, ça existe toujours.
Oui. Et puis aussi, disons, de facts réels, que les femmes n'ont pas d'accès au pouvoir. Alors maintenant, disons qu'une partie de la tradition et puis une partie de la réalité actuelle se sont bien mélangées, puis sont quand même assez complémentaires. Alors disons que ça renforçait beaucoup le pouvoir des hommes et puis, le pouvoir des femmes a énormément diminué. Parce que disons que cette autre partie qui était, ce qui était à l'autre côté de ces images de soumission a été oubliée.
Alors est-ce que quand tu t'es penchée sur le fonctionnement de la sexualité dans ce système social-là, est-ce que tu t'es rendu compte que c'était la place de la femme, son rôle tel que tu viens de nous le définir, qui influençait la sexualité? Au contraire, c'est les normes liées au corps et à la sexualité qui déterminaient la place de la femme dans la société.
Ouais, c'est plutôt le deuxième. Justement, là, ce qui est intéressant encore, et puis c'est pour ça que l'anthropologie est intéressante, c'est de voir comment les choses fonctionnent ailleurs. Et puis là, par exemple, on voit que toute la sexualité est construite justement autour du tabou de l'inceste, bon, un peu comme partout, disons. Mais disons que là, c'est très fort, le tabou de l'inceste entre sœurs et frères. Et alors, il y a plein des normes, justement, que se sont développées pour empêcher que ça arrive, disons, parce que c'est considéré comme monstrueux, encore comme chez nous. Mais nous, on pense que c'est tellement monstrueux que c'est comme une espèce de perversion. Alors, on ne prend pas énormément de mesures, ou au moins, ils ne sont pas très conscients. Mais là, c'est très conscient, disons, qu'il y a cette idée de que l'homme ne peut pas très bien contrôler ses impulsions et puis que les femmes, disons, sont trop sexuées. Alors, il faut que la femme essaye d'effacer toute trace de sa sexualité pour ne pas exciter les désirs sexuels de leurs frères. Alors, justement, autour de ça, toute la sexualité est construite et puis aussi le rôle des femmes, justement. Bon, comme quoi les normes de pudeur sont incroyables, c'est-à-dire, bon, je disais tout à l'heure qu'elles devaient toujours amener deux jupes, mais ce qui est étonnant, c'est, disons, l'habilité qu'elles ont de monter dans un bateau, de s'asseoir par terre, de faire plein de choses, des travaux, puis qu'elles laissent jamais voir une petite partie de leurs jambes. Ça, c'est assez incroyable. Mais c'est justement pour ça, parce qu'elles sont énormément concernées, et puis il faut jamais faire des choses qu'ils trouvent trop sexuées, qui est presque n'importe quoi.
Et comment alors la petite fille est initiée à ce rôle-là? Elle est séparée dès son plus jeune âge de ses frères, ou bien la société est très divisée dans les lieux de vie, etc.?
Oui, la ségrégation sexuelle est très forte. Disons que, bon, on a dit encore que c'est une société matrilinéaire, que c'est les femmes qui gardent la terre. Alors, c'est les femmes aussi qui restent à la maison. Alors normalement, les garçons, dès qu'ils arrivent à la puberté, ils doivent dormir ailleurs. Ils doivent aller dormir dehors de la maison, ou des endroits qu'on appelle les maisons des hommes. Ils vont dormir là, et puis comme ça, justement, on empêche qu'ils dorment ensemble. Puis d'ailleurs, les frères, ils vont toujours essayer de ne pas mettre un pied dans la maison parce qu'il y a les sœurs. Disons qu'ils vont essayer de s'éviter tout le temps l'un à l'autre.
Est-ce que cette même séparation existe avec les parents? C'est-à-dire, là, on parle beaucoup de l'inceste frère-sœur, alors que j'ai l'impression que chez nous, l'inceste est plus père-fille, par exemple.
Par exemple, ouais. Oui. Non, mais là, disons que c'est... la différence est aussi que par rapport à ce qu'on pense de la famille, chez nous, par exemple, ce qui est important, c'est les parents et les enfants. Et puis, par contre, en Micronésie, ce qui est important, c'est les frères et les sœurs. Disons que les frères et les sœurs, ça va être le noyau de la famille. Ce n'est pas tellement les parents, les enfants, mais c'est le groupe des frères et sœurs. Alors c'est surtout que les normes d'établissement d'inceste affectent justement cette relation, parce qu'elle est aussi la plus importante et puis la plus structurante justement de la société.
Alors dans le cadre de cette exposition au musée d'ethnographie, tu as fait avec une de tes amies, Béatrice, fait faire par cette amie plutôt, une série de tableaux qui nous donnent des images de cette situation. Et entre autres, les fameuses maisons où il n'y a que des hommes ou que des femmes, elles sont très présentes dans ces dessins magnifiques, très colorés, avec des bordures, avec des animaux, des fleurs, des poissons. C'est vraiment des dessins très charmants qui illustrent les choses que tu nous apprends tirées de ta recherche. Et alors, on se rend bien compte, en tout cas, de ces maisons de femmes et les, pas les hommes. On ne les voit pas représentés, mais on se doute bien qu'eux, ils doivent être ailleurs. Alors, de tous cette structure, cette réglementation que tu viens de nous décrire, alors je suppose que la sexualité elle-même est quelque chose d'extrêmement caché si personne doit s'approcher entre les hommes et les femmes.
Alors, il faut dire aussi que pour une femme, c'est pas seulement qu'elle a les frères de ce qu'on entend ici par frère, mais aussi tous ces cousins sont aussi des frères. Alors, puis c'est des familles énormes, comme quoi une femme peut avoir, je sais pas, une vingtaine de frères. Alors justement, il faut être asexué, disons asexué, je ne sais pas si c'est le... Il faut être un être asexué justement vis-à-vis de ses frères. Et puis bon, alors ça veut dire qu'on ne peut pas discuter avec un homme par exemple. On ne peut pas... à partir de ça, si tu ne peux même pas discuter avec un homme parce que c'est déjà trop connoté, on peut imaginer le reste, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un rapport, disons, publiquement, je ne vais pas dire de faire l'amour en public, mais justement que tout le monde sache qu'il y a une relation entre un homme et une femme qui implique aussi des rapports sexuels. Ça, c'est absolument... Bon, c'est impossible, il faut absolument cacher ça.
On ne se tient pas par la main, ces signes de tendresse extérieure dans le monde occidental n'existent pas.
Pas du tout, non. Puis le problème, c'est aussi qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas d'endroit intime. Alors voilà, disons qu'il faut cacher ça absolument, mais en même temps, tu vas te cacher où ? Parce qu'il n'y a pas d'endroit, disons que les maisons, elles sont petites, normalement, elles sont juste une pièce ou peut-être deux. Et puis, disons que ce n'est pas évident. Si tu veux avoir des rapports sexuels, il faut ou bien attendre que tout le monde dort, ou bien aller dans la forêt. Mais disons que les îles sont très peuplées. Alors, il y a vraiment...
Même la forêt.
Même la forêt, justement. Alors, il n'y a pas tellement d'endroits pour pouvoir jouir, disons, tranquillement.
Mais bon, ça, ce dont tu nous parles, Béatrice, c'est ici les rapports en général homme-femme. Et est-ce que, par exemple, les choses changent totalement lorsqu'on considère le couple officiel ? Est-ce qu'il y a la notion de mariage existe ? Est-ce qu'il y a à un moment donné un statut différent pour une femme qui aurait un lien officiel avec un homme ?
Oui, bon, disons que... Mais l'histoire, c'est que c'est... Les raisons pour lesquelles on arrive à marier quelqu'un, ils n'ont rien à voir avec les raisons qu'on peut avoir ici. Là, c'est plutôt ces deux familles. Disons que l'histoire de qu'un homme et une femme décident de se marier, ça veut dire qu'on va créer un lien entre deux familles. Alors, c'est plutôt une affaire des familles plutôt qu'une affaire de décision personnelle, parce que j'aime cet homme, je veux lui marier. Disons que normalement, ça, c'est pas un critère. L'amour, c'est pas un critère pour se marier. C'est plutôt des raisons de convenance des deux familles qui sont bien. Et puis voilà.
Donc la femme n'a pas un nouveau statut à partir du moment où elle est mariée.
Oui, disons que elle a un statut plus élevé depuis qu'elle a des enfants. Mais disons que son statut, elle monte petit à petit. Parce que bon, plus on a d'enfants, plus élevé ton statut. Et puis surtout, plus tu as des filles, plus il y a des gens qui peuvent faire les travaux que personne ne veut faire. Alors, ça, c'est disons une façon de pouvoir élever le statut.
On ne tue pas les petites filles en Micronésie.
Non,
pas cette idée-là que les filles sont à éliminer.
Non, normalement... Elle préfère les filles, ce n'est pas une préférence absolue. Hein. Normalement, c'est bien avoir les deux, mais disons, une famille qui n'a pas de filles, c'est une famille très malheureuse. Mais Mais bon, ça c'est rare aussi parce que les familles sont grandes. Disons que ce n'est pas juste une mère qui va avoir d'enfants, c'est une femme et toutes ses sœurs vont avoir d'enfants. Donc, c'est tous compris dans la même famille. Alors, s'il n'y a pas une qui a des filles, ça serait l'autre. Alors,
Et est-ce que tu as eu la sensation que les femmes... Enfin, c'est peut-être bête à dire parce qu'on connaît bien le poids de la culture et de l'éducation, mais se satisfont de ce type de lien? Ou est-ce qu'elles trouvent des compensations, par exemple, en ayant une vie entre femmes particulièrement importante, qui n'existerait pas de façon si importante chez nous, y compris dans la sexualité? Est-ce que, par exemple, l'homosexualité est une chose qui est très présente dans la société de l'État de Tchouk?
Bon, ça c'est encore un peu polémique, justement parce que disons que tous les anthropologues qui sont passés par la Micronésie, bon, par Tchouk, ils se sont dit que l'homosexualité n'existe pas. Alors, bon, voilà que j'arrive. Et puis, comme ça m'arrive aussi partout, je connais toujours des homosexuels. Puis, je fais des très... je deviens toujours très bonne copine des homosexuels. Et puis, alors, à Tchouk, c'était aussi comme ça. Puis, j'arrive là. Et puis, j'ai rencontré justement des homosexuels. Et puis, voilà. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est cette histoire de Gatsu qu'il n'y a pas d'homosexuels? Puis bon, c'est là aussi que j'ai commencé à me dire justement bon, pourquoi les autres anthropologues sont arrivés à cette conclusion. Alors apparemment, c'est parce qu'il y a beaucoup de contacts physiques entre les hommes et puis entre les femmes séparément. Hein. Et par exemple, on voit très couramment des garçons qui se prennent par la main, ou qui s'embrassent, ou, disons qu'ils sont en contact physique assez très très proche. Aussi parce que bon, dès qu'ils arrivent à l'adolescence, ils doivent dormir dehors, alors ils dorment ensemble, puis bon, ils font la fête, ils font plein de choses ensemble, quoi. Alors disons qu'ils arrivent à avoir aussi des rapports homosexuels. Mais ce qui n'existe pas tellement, c'est l'idée du homosexuel, justement.
C'est-à-dire la relation vraiment teintée par la sexualité, quoi.
Non, disons qu'il existe des rapports homosexuels, mais pas l'image de la personne homosexuelle. Disons, ça ne veut pas dire que parce que tu as des rapports homosexuels, tu es un homosexuel. Mmh. Alors bon, ça c'est aussi une façon différente de le voir. Et ça... Ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, les gens appelaient certains hommes, on disait qu'ils étaient hommes-femmes, puis ça, on arrivait plutôt à les dire à cause du travail qu'ils faisaient, mais pas tellement à cause des rapports sexuels qu'ils avaient.